VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Michel Joseph. Au sommaire en ce vendredi 8 mai 2015.
Le HCR s'inquiète de la décision du Niger forçant des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad.
Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinacker.
Tous les détails avec Chérubin Dorsil.
Au moins 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées jeudi à Bujumbura au Burundi.
En RDC, au moins 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre pygmées et bantous à Manono, dans la province du Katanga.
Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime de Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé.
Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
On entendra Ferdinand Ayité, président de SOS Journaliste en danger à Lomé, mais tout d'abord le journal. Au moins 3 personnes ont été blessées, plusieurs autres. Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées jeudi dans de nouveaux affrontements à Bujumbura, la capitale du Burundi, entre la police et des manifestants, signale la Croix-Rouge et des témoins. Les protestataires contestent toujours la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Parmi les morts, un homme accusé par les manifestants d'appartenir à la jeunesse fidèle au président et qui a été brûlé vif.
S'exprimant à Addis Abeba, la présidente de la Commission de l'Union africaine a déclaré que l'Union africaine n'enverra pas d'observateurs au Burundi pour suivre l'élection présidentielle prévue le 26 juin. Ce serait inutile dans le climat actuel, a estimé Nkosazana Dlamini-Zuma. Depuis le début des manifestations le 26 avril, au moins 13 personnes, dont 10 manifestants, sont mortes dans des violences.
En République démocratique du Congo, au moins 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre pygmées et bantous à Manono, dans la province du Katanga. Les précisions d'Eddie Isango.
Plusieurs blessés ont été enregistrés dans ces affrontements. L'abbé Moïse Kilouba, coordonnateur de la société civile à Manono, a indiqué que les 8 morts ont été comptés du côté des bantous. Les bilans étaient certains pour ce qui est des pygmées, mais ce qui est sûr, selon l'abbé Kaloubi, est que certains pygmées ont aussi été blessés. D'après lui, les affrontements ont opposé mardi les milices appartenant aux deux groupes ethniques. La police, qui n'a pas pu intervenir, reconnaît que les affrontements sont récurrents entre bantous et pygmées dans la zone. La société civile a interpellé les autorités congolaises pour arrêter ces conflits ethniques qui datent de très longtemps et qui a fait un nombre inconnu de morts.
Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef de milice Charles Blégoudé s'ouvrira le 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Cour pénale internationale. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Burkina Faso, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable la requête de l'ancienne mouvance présidentielle. Celle-ci juge illégale la nouvelle loi électorale adoptée le mois dernier et qui disqualifie tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution en 2014. Pour en savoir plus sur les raisons de la Haute Cour, on écoute Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Les raisons invoquées par le Conseil constitutionnel, par les grands sages, c'est que la requête est signée pour l'ensemble des conseils des députés par Maître Anassouri Ouattara et que Maître Anassouri Ouattara ne figure pas au nombre des autorités habilitées par la Constitution à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité d'une loi. Donc, en d'autres termes, les requérants devraient signer eux-mêmes leurs documents conformément à l'article 157 de la Constitution. Ça veut dire que c'est pour juste de forme que la requête a été déclarée irrecevable parce que les signataires n'ont pas signé.
Est-ce que ce dossier est clos donc?
Ils disent qu'ils vont lutter par d'autres moyens, mais on ne sait pas comment, parce que vous savez même que la loi a été promulguée et quand le Conseil constitutionnel rejette, en tout cas une requête, je ne vois pas comment ils vont encore se pourvoir. Donc ça va être très difficile.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, il était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime de Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé. Déjà avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les services sociaux comme Facebook étaient inaccessibles. On écoute Ferdinand Haïté, président du SOS Journaliste en danger à Lomé.
L'Internet a été en partie perturbé avant la proclamation des résultats, notamment le 26 et le 27. Donc il y a eu des difficultés d'accès sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès à l'Internet au Togo ont tout fait pour perturber l'accès à ces réseaux sociaux. Maintenant, après la proclamation des résultats, c'est-à-dire que le 28, le 29, jusqu'à ce jour, plusieurs sites Internet ont été rendus inaccessibles. Une dizaine de sites Internet sont actuellement inaccessibles à partir du Togo. Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
Ferdinand Haïté, président de SOS Journalistes en danger à Lomé.
Au Mali, le vérificateur général a rendu son rapport sur la corruption en 2013 et 2014. Il a remis le document en main propre au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Morgan Guiriec.
Ibrahim Boubacar Keïta avait affirmé en présentant ses vœux que 2014 serait l'année de la lutte contre la corruption. Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général, a pris ces mots à la lettre. Son rapport est très précis. En deux ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Presque aucun service n'est épargné. Le fisc, les douanes, les domaines, les services sociaux, sanitaires et même l'éducation. Le rapport donne beaucoup d'exemples. Comment les délinquants à col blanc se remplissent les poches sur le dos de l'État? La corruption gangrène l'administration alors que le pays est sous perfusion de la communauté internationale. Ce dernier rapport finira-t-il dans des tiroirs poussiéreux comme les précédents? La balle est maintenant dans le camp du président malien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élections législatives en Grande-Bretagne. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, les conservateurs de David Cameron amélioreraient leur score, les travaillistes et les centristes étant les grands perdants du scrutin. Les estimations à la sortie des urnes donnent les conservateurs gagnants. Ils sont largement en tête avec 316 sièges au Parlement, à moins de 10 sièges de la majorité absolue.
Le géant français du nucléaire, Areva, a annoncé sa première diminution d'effectifs de son histoire, avec 5 à 6 000 suppressions d'emplois à travers le monde. Jean-Roger Bion.
Areva, détenu à près de 87% par des capitaux publics, a accusé une perte de quelque 5 milliards d'euros l'an dernier. Pour redresser ses comptes, le groupe avait annoncé en mars un plan d'économie d'un milliard d'euros d'ici 2017. Hier, le géant du nucléaire a présenté un plan pour sa cure d'amaigrissement. Deux tiers des économies seront réalisées par la réduction de 18% des frais de personnel, c'est-à-dire la suppression de 5 à 6 000 postes au niveau mondial. Des efforts sur les achats feront le reste. Le groupe emploie près de 44 000 personnes dans le monde, dont 29 000 en France. Areva avait déjà annoncé la suppression de 1 500 postes en Allemagne d'ici 2017. Il avait aussi engagé un plan de départ pour des centaines de personnes aux États-Unis et licencié 170 salariés de sa mine d'uranium Dimouraren dans le nord du Niger. Le chantier Dimouraren est d'ailleurs suspendu depuis le mois d'août.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est en France où il doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe pour discuter de questions de sécurité et des crises régionales. Il s'agit pour le chef de la diplomatie américaine de préparer le sommet prévu à la Maison-Blanche avec les dirigeants du Golfe arabo-persique la semaine prochaine.
On enchaîne avec La Minute Éco en compagnie de Félix Yepassis Zembrou.
Le Burkina Faso, premier producteur de coton d'Afrique, va réduire sa production de coton transgénique dès cette année, a appris jeudi l'agence France-Presse de sources officielles. Selon M. Ali Compaoré, directeur général de la SOCOMA, l'une des trois principales compagnies cotonnières du pays, cette décision n'était pas due à une remise en cause de cette technologie, mais simplement à des difficultés techniques. Le Burkina Faso, qui a détrôné depuis 2007 l'Égypte comme premier producteur de coton du continent, est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir expérimenté la culture de coton OGM en plein champ. Quelque 3,5 millions de personnes vivent directement de l'activité cotonnière au Burkina Faso. Le Trésor public ivoirien espère mobiliser près d'un milliard de francs CFA en 2015 par ses émissions de bons et obligations. C'est ce qu'a déclaré à l'agence APA le sous-directeur des marchés financiers de cette institution, Auguste Charles Wahi Dagrou, lors d'une campagne de promotion de ses produits à Abidjan. Cette campagne vise à mobiliser et augmenter le nombre d'épargnants pour renforcer la liquidité de la banque interne du Trésor et partant la trésorerie de l'État. Le gouvernement bissau-guinéen a signé cette semaine un accord de crédit de 13,9 milliards de francs CFA avec le Fonds monétaire international, suite au séjour d'une mission d'évaluation de l'institution dans le pays. Le déblocage de ces fonds est lié au feu vert du conseil d'administration du FMI prévu en juillet. L'accord fait partie d'une initiative du FMI appelée Crédit rapide, dont les bénéficiaires sont les pays dans une situation financière désespérée. L'Union européenne a octroyé hier jeudi au Maroc un don de près de 46 millions d'euros pour la construction d'un complexe d'énergie solaire d'une capacité de 150 MW à Ouarzazate, dans le sud-est. Le président de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mustapha Bakouri, a souligné que ce don confirme la confiance des investisseurs internationaux dans les actions du Maroc pour le développement des énergies renouvelables.
Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Camille.
Football d'abord, la FIFA a publié jeudi la nouvelle édition de son classement mondial.
Oui, toujours en tête dans la zone africaine, l'Algérie 20e plus 1 retrouve le top 20, 3 rangs devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique.
Et en tennis, on arrive aux demi-finales du tournoi de Madrid.
Oui, Svetlana Kuznetsova s'est qualifiée pour les demi-finales après un véritable marathon remporté jeudi contre la Tchèque Lucie Safarova, 14e mondiale en 3 matchs 5-7, 7-6, 7-6. C'est la première fois depuis sa victoire à Washington en août 2014 que la double lauréate au Grand Chelem atteint le dernier carré d'un tournoi. Et voici les résultats complets de cette 6e journée du tournoi WTA sur terre battue de Madrid. En simple dame, Serena Williams, numéro 1 mondial, bat l'Espagnole Carla Williams, numéro 10 mondial, 6-1, 6-3. La Russe Maria Sharapova bat la Danoise Caroline Wozniacki, 6-1, 3-6, 3-6 et 6-3. Et enfin, Petra Kvitova, numéro 4 mondial, la Tchèque, donc, bat Irina Begu de la Roumanie, 7-5, 6-3. Et pour terminer, Camille, la NBA.
Eh bien, les matchs des demi-finales du championnat nord-américain de basketball reprendront ce soir et samedi. Le temps pour les Washington Wizards d'aviser. En effet, ils viennent d'essuyer un coup dur en perdant leur meneur, John Wall. Wall est tombé lors d'un match des demi-finales de la Conférence Est face aux Hawks d'Atlanta. Il souffrait du poignet gauche. Et voilà, les examens ont révélé 5 petites fractures au niveau du poignet de la main. Son absence va être un gros handicap pour la suite de la série contre la franchise de Georgie. Et puis Jimmy Butler des Chicago Bulls a été élu Most Improved Player, c'est-à-dire le joueur qui s'est le plus amélioré de la saison NBA. L'arrière des Bulls de Chicago est ainsi récompensé pour sa saison exceptionnelle. Alors que la franchise de l'Illinois est actuellement opposée aux Cleveland Cavaliers en demi-finale de la Conférence Est.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour vous présenter les dossiers du jour. La communauté internationale continue de faire pression pour que l'accord d'Alger, qui vise à ramener la paix au Mali, puisse être signé le 15 mai 2015. Si le chargé d'affaires de l'Union européenne et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mali sont unanimes pour exprimer ce souhait, des voix s'élèvent de plus en plus à Bamako afin que le Mali puisse tenir la date indiquée pour la signature de l'accord. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit davantage.
Le président de la République du Mali a rencontré la médiation. Les buts étaient d'échanger sur les voies et moyens de rétablir la calmie dans la région nord suite au récent regain de tensions et aux violations du cessez-le-feu et de faire progresser le processus de paix en perspective de la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale le 15 mai prochain. Monge Hamdi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Nous exhortons toutes les parties prenantes maliennes de s'abstenir des hostilités sur le terrain et de rester engagé dans le processus de paix qui va conduire à la signature de cet accord le 15 mai.
À l'Union européenne, la signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain est une préoccupation quotidienne. André Bieleki, chargé d'affaires à la délégation de l'UE à Bamako.
L'Union européenne ne ménage pas ses efforts, je peux vous assurer, pour que effectivement ce 15 mai, les trois parties signent le texte d'accord. Ce qui est très préoccupant, et c'est vraiment un appel de l'Union européenne, mais aussi des autres membres de la médiation, est de respecter le cessez-le-feu. L'accord prévoit des mécanismes de confiance entre les parties pour qu'effectivement la sécurité et la paix reviennent dans le nord du Mali.
L'ancien premier ministre malien pense que le Mali doit tout faire pour tenir la date du 15 mai prochain. Moussa Mara.
Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs de la crise qui n'ont pas intérêt à ce que la crise soit résolue, qui vivent de l'insécurité, soit de pillage, soit de brigandage de toutes sortes, soit simplement de représentation dans les capitales occidentales, de séjour dans les grands hôtels et autres. Et qui n'ont pas intérêt à ce que les choses soient tranquilles, parce que quand les choses seront tranquilles, il va falloir venir sur le terrain, il va falloir faire campagne, il va falloir être élu. Certains n'ont pas l'habitude et surtout n'ont pas les masses derrière eux pour avoir ces responsabilités.
La délégation de l'Union européenne est actuellement au four et au moulin pour faire venir tout le monde à Bamako.
On a encore parlé avec les réfractaires et nous avons essayé de leur expliquer pourquoi il serait bien, non seulement pour eux, mais aussi pour le Mali et aussi pour l'investissement de la communauté international depuis des mois, pourquoi il serait très important qu'il signe également et qu'il soit avec nous présent le vendredi prochain 15 mai pour signer. J'espère que ces efforts, les nôtres, mais aussi des autres membres de la communauté internationale, porteront le fruit et que le 15 mai sera un succès.
Après le 15 mai, si la CMA ne signe pas, elle aura une semaine pour le faire. En cas de refus, il y aura des sanctions comme le préconise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Camille Grodidier avec vous. On se tourne vers le Togo pour parler d'éducation sexuelle à l'école. Ces enseignements sont presque inexistants car les programmes scolaires ne la prennent pas en compte. Mais dans le pays, les initiatives privées ne manquent pas pour accompagner les élèves sur les questions de la sexualité. Je vous propose de suivre ce reportage, notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
La sexualité, c'est l'accouplement de deux sexes opposés qui sont attirés l'une vers l'autre.
Voilà comment cet élève en classe de 3e définit la sexualité. On ne peut pas lui tenir rigueur car au Togo, l'éducation sexuelle n'est pas prévue dans le programme scolaire. Malgré ce vide, certains établissements scolaires entretiennent leurs élèves sur la question. Alexandre Adonion, psychopédagogue et fondateur d'un collège privé à Lomé.
Nous n'avons pas de programme pour l'éducation sexuelle. C'est vraiment dommage. Comme je comprends l'importance de l'éducation sexuelle dans la vie de l'enfant, je réunis mes enseignants, je les forme en éducation sexuelle. Et je leur demande occasionnellement, il faut qu'ils impliquent un peu l'éducation sexuelle dans leur programme et qu'ils donnent cette éducation-là aux élèves. Parce que c'est très important.
L'éducation sexuelle à l'école est primordiale pour mettre des élèves à l'abri de certains dangers, soutient Théophile Tosoupin, coordinateur de l'antenne maritime de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF.
Si on se réfère même à la définition de la sexualité qui signifie l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, que la fille ou bien le garçon réfléchit avant d'agir, ce qui voudrait aussi signifier connaître les risques des rapports sexuels non protégés. Si cela signifie se protéger des IST, SIDA et des grossesses précoces non désirées, enfin si cela voudrait dire apprendre à exprimer son désir sexuel tout en respectant les autres et soi-même, je crois que c'est important que l'on parle de la chose aux jeunes élèves pour qu'ils puissent se préparer contre ces dangers.
La préparation d'une leçon sur la sexualité se fait de façon particulière, nous dit le psychopédagogue Alexandre Adognon.
Une leçon d'éducation sexuelle, elle est un peu compliquée. Vous posez des questions aux enfants, parfois vous leur demandez d'aller demander à leurs parents à la maison et leur point de vue. Les parents ramènent leur point de vue, vous sélectionnez et vous faites le résumé. Par exemple, pour la question sur la virginité, j'ai demandé aux enfants d'aller demander à maman qu'est-ce que c'est que la virginité. On doit être vierge jusqu'à quel âge? Pourquoi on doit être vierge? Alors, ils ont ramené et on a fait le débat. Et après, moi, j'ai conçu un test de dictée que je leur ai donné.
L'éducation sexuelle est complexe des jeunes. La TBF en fait son cheval de bataille. L'absence d'une éducation sexuelle dans les écoles togolaises peut-elle expliquer les milliers de grossesses non désirées enregistrées chaque année dans le pays? Entre 2011 et 2012, ces grossesses étaient de l'ordre de 3000. Durant l'année scolaire 2013-2014, elles ont grimpé à plus de 5500. Kailasan Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Camille Grodidier qui vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui. Le HCR s'inquiète de la décision du Niger forçant des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad suite à la sanglante attaque menée le mois dernier par le groupe islamiste nigérian Boko Haram dans la région. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Suite à la mesure prise par le gouvernement de Niamey, des milliers de Nigérians travaillant dans le secteur de la pêche sont obligés de quitter le lac Tchad pour regagner leur pays, rapportent les autorités des deux côtés de la frontière. Le mois dernier, les militants de Boko Haram ont attaqué l'île de Karamga, tuant au moins 74 soldats et civils nigériens. Al-Hadji Mohamed est le coordinateur pour le nord-est du Nigeria de l'Agence nigérienne de gestion des urgences.
Les trois premiers jours, nous avons reçu près de 4000 personnes et un autre groupe de près de 3000 et nous sommes en train de procéder à leur enregistrement. Les 6 ans de guerre de Boko Haram ont contraint plus de 1 million de Nigérians à fuir leurs villes et villages. L'attaque contre l'île nigérienne est intervenue 3 mois après la décision du Niger de se joindre à une offensive internationale contre les insurgés nigérians et leur projet d'imposer la charia dans le nord-est du Nigeria. Carl Steinecker, représentant du HCR au Niger, dit que les îles du lac Tchad, dont le gouvernement nigérien a ordonné l'évacuation, abritent de nombreux pêcheurs nigériens et nigérians. Si les civils nigériens peuvent repartir vers des villes de leur pays, les Nigérians, eux, n'ont pas d'autre choix sinon traverser la frontière. Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinecker. Les travailleurs migrants originaires du Nigeria sont évacués par camion vers l'état nigérian de Yobe, qui a été ravagé par l'insurrection de Boko Haram. C'est un retour risqué, déplore le représentant du HCR au Niger. Même si ce sont des migrants, il faut se demander, est-il approprié de les renvoyer chez eux et est-ce la bonne manière de le faire? Et la réponse dans les deux cas serait non. Quelques 16 000 réfugiés nigérians restent au Niger, ayant fui les attaques de Boko Haram contre leur village.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Camille Grodidier avec vous. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'évacuation prochaine de ses compatriotes vivant en Libye où, selon lui, l'insécurité croissante pousse de jeunes migrants à tenter la traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. Le chef de l'État ivoirien, qui s'exprimait lors d'un forum de 2 jours sur la diaspora ivoirienne, s'est dit peiné de voir des milliers de jeunes migrants, dont beaucoup d'Africains, périr en Méditerranée. On écoute le président Ouattara.
J'ai demandé au ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de prendre les dispositions en liaison avec notre ambassadeur en Libye et en relation avec le gouvernement tunisien pour évacuer les Ivoiriens se trouvant en situation de détresse en Libye parce que, bien évidemment, ce pays est en proie à des tensions. Au regard de l'embellie économique que connaît notre pays, aucun Ivoirien n'a aujourd'hui de raison de risquer sa vie en tentant la traversée clandestine de la Méditerranée.
Monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici Washington, à l'occasion de leur sommet à Libreville au Gabon, les chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont décidé la suppression des visas. Ils ont également instauré la libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC, à savoir le Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Bagassi Koura a joint à Libreville Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'université Omar Bongo. Il explique d'abord pourquoi cette mesure n'a pas été prise des années plus tôt.
Ça traîne parce que il y a en Afrique centrale un certain nombre de pays de faible démographie, comme Gabon et la Guinée équatoriale, qui avaient des craintes d'un envahissement de la part de certains pays de la CEMAC qui sont des pays à forte démographie, donc qui craignent un envahissement.
Est-ce à dire que des pays comme le Gabon n'ont plus de crainte d'être envahis, comme vous dites?
Non, la crainte existe toujours, mais nous sommes dans une communauté. La libre circulation, elle est inscrite dans les règles de la communauté. Mais la libre circulation ne veut pas dire la libre installation aussi, à la différence justement de la communauté européenne.
Un Camerounais peut aller à Libreville, mais il ne peut pas travailler au Gabon.
Un Camerounais peut venir à Libreville, il peut venir au Gabon. La loi gabonaise dit que lorsque vous êtes ressortissant étranger, il faudrait qu'au bout de 6 mois, il faudrait que vous puissiez obtenir une carte de séjour, vous faire établir une carte de séjour. Et la question de la libre circulation donc va être réglée maintenant par les législations nationales. C'est-à-dire que le pays souverainement peut procéder à un certain nombre de contrôles et tout pour vérifier si X, Y sont... Il en règle.
Et qu'est-ce
donc
que...
deux choses différentes qu'il faut différencier, ouais. La circulation et l'installation.
Et qu'est-ce que cette nouvelle mesure de suppression des visas peut apporter sur le plan économique pour la zone communautaire?
Je vous dis par exemple au Gabon ici, les Gabonais partent d'ici pour aller acheter cette marchandise, les marchandises qui sont vendues dans ce marché mondial pour venir vendre au Gabon. Le monde, mais ça va contribuer naturellement à la dynamisation des échanges économiques.
Le professeur Jean-Valentin Léama, qui enseigne les finances à l'université Omar Bongo.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Peace Africa, ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grodidier. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Michel Joseph. Au sommaire en ce vendredi 8 mai 2015.
Le HCR s'inquiète de la décision du Niger forçant des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad.
Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinacker.
Tous les détails avec Chérubin Dorsil.
Au moins 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées jeudi à Bujumbura au Burundi.
En RDC, au moins 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre pygmées et bantous à Manono, dans la province du Katanga.
Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime de Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé.
Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
On entendra Ferdinand Ayité, président de SOS Journalistes en danger à Lomé, mais tout d'abord le journal. Au moins 3 personnes ont été blessées, plusieurs autres. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées jeudi dans de nouveaux affrontements à Bujumbura, la capitale du Burundi, entre la police et des manifestants, signale la Croix-Rouge et des témoins. Les protestataires contestent toujours la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Parmi les morts, un homme accusé par les manifestants d'appartenir à la jeunesse fidèle au président et qui a été brûlé vif.
S'exprimant à Addis Abeba, la présidente de la commission de l'Union africaine a déclaré que l'Union africaine n'enverra pas d'observateurs au Burundi pour suivre l'élection présidentielle prévue le 26 juin. Ce serait inutile dans le climat actuel, a estimé Nkosazana Dlamini-Zuma. Depuis le début des manifestations le 26 avril, au moins 13 personnes, dont 10 manifestants, sont mortes dans des violences.
En République démocratique du Congo, au moins 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre pygmées et bantous à Manono, dans la province du Katanga. Les précisions d'Eddy Isango.
Plusieurs blessés ont été enregistrés dans ces affrontements. L'abbé Moïse Kilouba, coordonnateur de la société civile à Manono, a indiqué que les 8 morts ont été comptés du côté des bantous. Les bilans étaient certains pour ce qui est des pygmées, mais ce qui est sûr, selon l'abbé Kaloubi, est que certains pygmées ont aussi été blessés. D'après lui, les affrontements ont opposé mardi les milices appartenant aux 2 groupes ethniques. La police, qui n'a pas pu intervenir, reconnaît que les affrontements sont récurrents entre bantous et pygmées dans la zone. La société civile a interpellé les autorités congolaises pour arrêter ces conflits ethniques qui datent de très longtemps et qui a fait un nombre inconnu de morts.
Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef et l'ex-chef depuis... Et l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé s'ouvrira le 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Cour pénale internationale. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Burkina Faso, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable la requête de l'ancienne mouvance présidentielle. Celle-ci juge illégale la nouvelle loi électorale adoptée le mois dernier et qui disqualifie tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution en 2014. Pour en savoir plus sur les raisons de la Haute Cour, on écoute Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Les raisons invoquées par le Conseil constitutionnel par les grands sages, c'est que la requête est signée pour l'ensemble des conseils des députés par Maître Anassori Ouattara et que Maître Anassori Ouattara ne figure pas au nombre des autorités habilitées par la Constitution à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité d'une loi. Donc, en d'autres termes, les requérants devraient signer eux-mêmes leurs documents conformément à l'article 157 de la Constitution. Ça veut dire que c'est pour tout juste de forme que la requête a été déclarée irrecevable parce que les signataires n'ont pas signé.
Est-ce que ce dossier est clos donc?
Ils disent qu'ils vont lutter par d'autres moyens, mais on ne sait pas comment, parce que vous savez même que la loi a été promulguée et quand le Conseil constitutionnel rejette en tout cas une requête, je ne vois pas comment ils vont encore se pourvoir. Donc ça va être très difficile.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, il était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime de Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé. Déjà avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les services sociaux comme Facebook étaient inaccessibles. On écoute Ferdinand Haïté, président du SOS Journaliste en danger à Lomé.
L'Internet a été en partie perturbé avant la proclamation des résultats, notamment le 26 et le 27. Donc il y a eu des difficultés d'accès sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès à l'Internet au Togo ont tout fait pour perturber l'accès à ces réseaux sociaux. Maintenant, après la proclamation des résultats, c'est-à-dire que le 28, le 29, jusqu'à ce jour, plusieurs sites Internet ont été rendus inaccessibles. Une dizaine de sites Internet sont actuellement inaccessibles à partir du Togo. Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
Ferdinand Haïté, président de SOS Journalistes en danger à Lomé.
Au Mali, le vérificateur général a rendu son rapport sur la corruption en 2013 et 2014. Il a remis le document en main propre au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Morgan Guiriek.
Ibrahim Boubacar Keïta avait affirmé en présentant ses vœux que 2014 serait l'année de la lutte contre la corruption. Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général, a pris ces mots à la lettre. Son rapport est très précis. En deux ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Presque aucun service n'est épargné. Le fisc, les douanes, les domaines, les services sociaux, sanitaires et même l'éducation. Le rapport donne beaucoup d'exemples. Comment les délinquants à col blanc se remplissent les poches sur le dos de l'État. La corruption gangrène l'administration alors que le pays est sous perfusion de la communauté internationale. Ce dernier rapport finira-t-il dans des tiroirs poussiéreux comme les précédents? La balle est maintenant dans le camp du président malien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élections législatives en Grande-Bretagne. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, les conservateurs de David Cameron amélioreraient leur score, les travaillistes et les centristes étant les grands perdants du scrutin. Les estimations à la sortie des urnes donnent les conservateurs gagnants. Ils sont largement en tête avec 316 sièges au Parlement, à moins de 10 sièges de la majorité absolue.
Le géant français du nucléaire, Areva, a annoncé sa première diminution d'effectifs de son histoire, avec 5 à 6 000 suppressions d'emplois à travers le monde. Jean-Roger Bion.
Areva, détenu à près de 87% par des capitaux publics, a accusé une perte de quelque 5 milliards d'euros l'an dernier. Pour redresser ses comptes, le groupe avait annoncé en mars un plan d'économie d'un milliard d'euros d'ici 2017. Hier, le géant du nucléaire a présenté un plan pour sa cure d'amaigrissement. Deux tiers des économies seront réalisées par la réduction de 18% des frais de personnel, c'est-à-dire la suppression de 5 à 6 000 postes au niveau mondial. Des efforts sur les achats feront le reste. Le groupe emploie près de 44 000 personnes dans le monde, dont 29 000 en France. Areva avait déjà annoncé la suppression de 1 500 postes en Allemagne d'ici 2017. Il avait aussi engagé un plan de départ pour des centaines de personnes aux États-Unis et licencié 170 salariés de sa mine d'uranium Dimouraren dans le nord du Niger. Le chantier Dimouraren est d'ailleurs suspendu depuis le mois d'août.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est en France où il doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe pour discuter de questions de sécurité et des crises régionales. Il s'agit pour le chef de la diplomatie américaine de préparer le sommet prévu à la Maison-Blanche avec les dirigeants du Golfe arabo-persique la semaine prochaine.
On enchaîne avec la Minute Éco en compagnie de Félix Yepassis Zembrou.
Le Burkina Faso, premier producteur de coton d'Afrique, va réduire sa production de coton transgénique dès cette année, a appris jeudi l'agence France-Presse de sources officielles. Selon M. Ali Compaoré, directeur général de la SOCOMA, l'une des trois principales compagnies cotonnières du pays, cette décision n'était pas due à une remise en cause de cette technologie, mais simplement à des difficultés techniques. Le Burkina Faso, qui a détrôné depuis 2007 l'Égypte comme premier producteur de coton du continent, est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir expérimenté la culture de coton OGM en plein champ. Quelque 3,5 millions de personnes vivent directement de l'activité cotonnière au Burkina Faso. Le Trésor public ivoirien espère mobiliser près d'un milliard de francs CFA en 2015 par ses émissions de bons et obligations. C'est ce qu'a déclaré à l'agence APA le sous-directeur des marchés financiers de cette institution, Auguste Charles Wahi Dagrou, lors d'une campagne de promotion de ses produits à Abidjan. Cette campagne vise à mobiliser et augmenter le nombre d'épargnants pour renforcer la liquidité de la banque interne du Trésor et partant la trésorerie de l'État. Le gouvernement bissau-guinéen a signé cette semaine un accord de crédit de 13,9 milliards de francs CFA avec le Fonds monétaire international, suite au séjour d'une mission d'évaluation de l'institution dans le pays. Le déblocage de ces fonds est lié au feu vert du conseil d'administration du FMI prévu en juillet. L'accord fait partie d'une initiative du FMI appelée Crédit rapide, dont les bénéficiaires sont les pays dans une situation financière désespérée. L'Union européenne a octroyé hier jeudi au Maroc un don de près de 46 millions d'euros pour la construction d'un complexe d'énergie solaire d'une capacité de 150 MW à Ouarzazate, dans le sud-est. Le président de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mustapha Bakouri, a souligné que ce don confirme la confiance des investisseurs internationaux dans les actions du Maroc pour le développement des énergies renouvelables.
Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Camille.
Football d'abord, la FIFA a publié jeudi la nouvelle édition de son classement mondial.
Oui, toujours en tête dans la zone africaine, l'Algérie 20e plus 1 retrouve le top 20, 3 rangs devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique.
Et en tennis, on arrive aux demi-finales du tournoi de Madrid.
Oui, Svetlana Kuznetsova s'est qualifiée pour les demi-finales après un véritable marathon remporté jeudi contre la Tchèque Lucie Safarova, 14e mondiale en 3 matchs 5-7, 7-6, 7-6. C'est la première fois depuis sa victoire à Washington en août 2014 que la double lauréate au Grand Chelem atteint le dernier carré d'un tournoi. Et voici les résultats complets de cette sixième journée du tournoi WTA sur terre battue de Madrid. En simple dame, Serena Williams, numéro 1 mondial, bat l'Espagnole Carla Williams, numéro 10 mondial, 6-1, 6-3. La Russe Maria Sharapova bat la Danoise Caroline Wozniacki, 6-1, 3-6, 3-6 et 6-3. Et enfin, Petra Kvitova, numéro 4 mondial, la Tchèque, donc, bat Irina Begu de la Roumanie, 7-5, 6-3. Et pour terminer, Camille, la NBA.
Eh bien, les matchs des demi-finales du championnat nord-américain de basketball reprendront ce soir et samedi. Le temps pour les Washington Wizards d'aviser. En effet, ils viennent d'essuyer un coup dur en perdant leur meneur, John Wall. Wall est tombé lors d'un match des demi-finales de la Conférence Est face aux Hawks d'Atlanta. Il souffrait du poignet gauche. Et voilà, les examens ont révélé 5 petites fractures au niveau du poignet de la main. Son absence va être un gros handicap pour la suite de la série contre la franchise de Georgie. Et puis Jimmy Butler des Chicago Bulls a été élu Most Improved Player, c'est-à-dire le joueur qui s'est le plus amélioré de la saison NBA. L'arrière des Bulls de Chicago est ainsi récompensé pour sa saison exceptionnelle, alors que la franchise de l'Illinois est actuellement opposée aux Cleveland Cavaliers en demi-finale de la Conférence Est.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour vous présenter les dossiers du jour. La communauté internationale continue de faire pression pour que l'accord d'Alger, qui vise à ramener la paix au Mali, puisse être signé le 15 mai 2015. Si le chargé d'affaires de l'Union européenne et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mali sont unanimes pour exprimer ce souhait, des voix s'élèvent de plus en plus à Bamako afin que le Mali puisse tenir la date indiquée pour la signature de l'accord. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit davantage.
Le président de la République du Mali a rencontré la médiation. Les buts étaient d'échanger sur les voies et moyens de rétablir la calmie dans la région nord suite aux récents regains de tensions et aux violations du cessez-le-feu et de faire progresser le processus de paix en perspective de la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale le 15 mai prochain. Mongi Amdi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Nous exhortons toutes les parties prenantes maliennes de s'abstenir des hostilités sur le terrain et de rester engagé dans le processus de paix qui va conduire à la signature de cet accord le 15 mai.
À l'Union européenne, la signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain est une préoccupation quotidienne. André Bieleki, chargé d'affaires à la délégation de l'UE à Bamako.
L'Union européenne ne ménage pas ses efforts, je peux vous assurer, pour que effectivement ce 15 mai, les trois parties signent le texte d'accord. Ce qui est très préoccupant, et c'est vraiment un appel de l'Union européenne, mais aussi des autres membres de la médiation, est de respecter le cessez-le-feu. L'accord prévoit des mécanismes de confiance entre les parties pour qu'effectivement la sécurité et la paix reviennent dans le nord du Mali.
L'ancien premier ministre malien pense que le Mali doit tout faire pour tenir la date du 15 mai prochain. Moussa Mara.
Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs de la crise qui n'ont pas intérêt à ce que la crise soit résolue, qui vivent de l'insécurité, soit de pillage, soit de brigandage de toutes sortes, soit simplement de représentation dans les capitales occidentales, de séjour dans les grands hôtels et autres, et qui n'ont pas intérêt à ce que les choses soient tranquilles, parce que quand les choses seront tranquilles, il va falloir venir sur le terrain, il va falloir faire campagne, il va falloir être élu. Certains n'ont pas l'habitude et surtout n'ont pas les masses derrière eux pour avoir ces responsabilités.
La délégation de l'Union européenne est actuellement au four et au moulin pour faire venir tout le monde à Bamako.
On a encore parlé avec les réfractaires et nous avons essayé de leur expliquer pourquoi il serait bien, non seulement pour eux, mais aussi pour le Mali et aussi pour l'investissement de la communauté internationale depuis des mois, pourquoi il serait très important qu'il signe également et qu'il soit avec nous présent le vendredi prochain 15 mai pour signer. J'espère que ces efforts, les nôtres, mais aussi des autres membres de la communauté internationale, porteront le fruit et que le 15 mai sera un succès.
Après le 15 mai, si la CMA ne signe pas, elle aura une semaine pour le faire. En cas de refus, il y aura des sanctions comme le préconise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Camille Grodidier avec vous. On se tourne vers le Togo pour parler d'éducation sexuelle à l'école. Ces enseignements sont presque inexistants car les programmes scolaires ne la prennent pas en compte. Mais dans le pays, les initiatives privées ne manquent pas pour accompagner les élèves sur les questions de la sexualité. Je vous propose de suivre ce reportage, notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
La sexualité, c'est l'accouplement de deux sexes opposés qui sont attirés l'une vers l'autre.
Voilà comment cet élève en classe de 3e définit la sexualité. On ne peut pas lui tenir rigueur car au Togo, l'éducation sexuelle n'est pas prévue dans le programme scolaire. Malgré ce vide, certains établissements scolaires entretiennent leurs élèves sur la question. Alessandre Adonion, psychopédagogue et fondateur d'un collège privé à Lomé.
Nous n'avons pas de programme pour l'éducation sexuelle. C'est vraiment dommage. Comme je comprends l'importance de l'éducation sexuelle dans la vie de l'enfant, je réunis mes enseignants, je les forme en éducation sexuelle. Et je leur demande occasionnellement, il faut qu'ils impliquent un peu l'éducation sexuelle dans leur programme et qu'ils donnent cette éducation-là aux élèves. Parce que c'est très important.
L'éducation sexuelle à l'école est primordiale pour mettre des élèves à l'abri de certains dangers, soutient Théophile Tosoukpé, coordinateur de l'antenne maritime de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF.
Si on se réfère même à la définition de la sexualité qui signifie l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, que la fille ou bien le garçon réfléchit avant d'agir, ce qui voudrait aussi signifier connaître les risques des rapports sexuels non protégés. Si cela signifie se protéger des IST, SIDA et des grossesses précoces non désirées, enfin, si cela voudrait dire apprendre à exprimer son désir sexuel tout en respectant les autres et soi-même, je crois que c'est important que l'on parle de la chose aux jeunes élèves pour qu'ils puissent se préparer contre ces dangers.
La préparation d'une leçon sur la sexualité se fait de façon particulière, nous dit le psychopédagogue Alexandre Adognon.
Une leçon d'éducation sexuelle, elle est un peu compliquée. Vous posez des questions aux enfants, parfois vous leur demandez d'aller demander à leurs parents à la maison et leur point de vue. Les parents ramènent leur point de vue, vous sélectionnez et vous faites le résumé. Par exemple, pour la question sur la virginité, j'ai demandé aux enfants d'aller demander à maman qu'est-ce que c'est que la virginité. On doit être vierge jusqu'à quel âge? Pourquoi on doit être vierge? Alors, ils ont ramené et on a fait le débat. Et après, moi, j'ai conçu un test de dictée que je leur ai donné.
L'éducation sexuelle et complète des jeunes, l'ATBF en fait son cheval de bataille. L'absence d'une éducation sexuelle dans les écoles togolaises peut-elle expliquer les milliers de grossesses non désirées enregistrées chaque année dans le pays? Entre 2011 et 2012, ces grossesses étaient de l'ordre de 3000. Durant l'année scolaire 2013-2014, elles ont grimpé à plus de 5500. Kailosan Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Camille Grodidier qui vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le HCR s'inquiète de la décision du Niger forçant des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad suite à la sanglante attaque menée le mois dernier par le groupe islamiste nigérian Boko Haram dans la région. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Suite à la mesure prise par le gouvernement de Niamey, des milliers de Nigérians travaillant dans le secteur de la pêche sont obligés de quitter le lac Tchad pour regagner leur pays, rapportent les autorités des deux côtés de la frontière. Le mois dernier, les militants de Boko Haram ont attaqué l'île de Karamga, tuant au moins 74 soldats et civils nigériens. Al-Hadji Mohamed est le coordinateur pour le nord-est du Nigeria de l'Agence nigériane de gestion des urgences.
Les trois premiers jours, nous avons reçu près de 4000 personnes et un autre groupe de près de 3000 et nous sommes en train de procéder à leur enregistrement.
Les 6 ans de guerre de Boko Haram ont contraint plus de 1 million de Nigérians à fuir leurs villes et villages. L'attaque contre l'île nigérienne est intervenue 3 mois après la décision du Niger de se joindre à une offensive internationale contre les insurgés nigérians et leur projet d'imposer la charia dans le nord-est du Nigeria. Carl Steinecker, représentant du HCR au Niger, dit que les îles du lac Tchad, dont le gouvernement nigérien a ordonné l'évacuation, abritent de nombreux pêcheurs nigériens et nigérians. Si les civils nigériens peuvent repartir vers des villes de leur pays, les Nigérians, eux, n'ont pas d'autre choix sinon traverser la frontière. Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinecker. Les travailleurs migrants originaires du Nigeria sont évacués par camion vers l'état nigérian de Yobe, qui a été ravagé par l'insurrection de Boko Haram. C'est un retour risqué, déplore le représentant du HCR au Niger. Même si ce sont des migrants, il faut se demander, est-il approprié de les renvoyer chez eux et est-ce la bonne manière de le faire? Et la réponse dans les deux cas serait non. Quelques 16 000 réfugiés nigérians restent au Niger, ayant fui les attaques de Boko Haram contre leur village.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Camille Roditi avec vous. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'évacuation prochaine de ses compatriotes vivant en Libye où, selon lui, l'insécurité croissante pousse de jeunes migrants à tenter la traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. Le chef de l'État ivoirien, qui s'exprimait lors d'un forum de 2 jours sur la diaspora ivoirienne, s'est dit peiné de voir des milliers de jeunes migrants, dont beaucoup d'Africains, périr en Méditerranée. On écoute le président Ouattara.
J'ai demandé au ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de prendre les dispositions en liaison avec notre ambassadeur en Libye et en relation avec le gouvernement tunisien pour évacuer les Ivoiriens se trouvant en situation de détresse en Libye parce que, bien évidemment, ce pays est en proie à des tensions. Au regard de l'embellie économique que connaît notre pays, aucun Ivoirien n'a aujourd'hui de raison de risquer sa vie en tentant la traversée clandestine de la Méditerranée.
Monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici Washington, à l'occasion de leur sommet à Libreville au Gabon, les chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont décidé la suppression des visas. Ils ont également instauré la libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC, à savoir le Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Bagassi Koura a joint à Libreville Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'université Omar Bongo. Il explique d'abord pourquoi cette mesure n'a pas été prise des années plus tôt.
Ça traînait parce que il y a en Afrique centrale un certain nombre de pays de faible démographie, comme Gabon et la Guinée équatoriale. Il y avait des craintes d'un envahissement de la part de certains pays de la CEMAC qui sont des pays à forte démographie. Donc, ils craignaient un envahissement.
Est-ce à dire que des pays comme le Gabon n'ont plus de crainte d'être envahis, comme vous dites?
Non, la crainte existe toujours, mais nous sommes dans une communauté. La libre circulation, elle est inscrite dans les règles de la communauté. Mais la libre circulation ne veut pas dire la libre installation aussi. À la différence, justement, de la communauté européenne.
Un Camerounais peut aller à Libreville, mais il ne peut pas travailler au Gabon.
Un Camerounais peut venir à Libreville, il peut venir au Gabon. La loi gabonaise dit que lorsque vous êtes ressortissant étranger, il faudrait qu'au bout de 6 mois, il faudrait que vous puissiez obtenir une carte de séjour, vous faire établir une carte de séjour. Et la question de la libre circulation donc, va être réglée maintenant par les législations nationales. C'est-à-dire que le pays souverainement peut procéder à un certain nombre de contrôles et tout pour vérifier si X, Y sont... Il y a en règle.
Et qu'est-ce
donc,
que...
deux choses différentes qu'il faut différencier, ouais. La circulation et l'installation.
Et qu'est-ce que cette nouvelle mesure de suppression des visas peut apporter sur le plan économique pour la zone communautaire?
Je vous dis, par exemple, au Gabon ici. Les Gabonais partent d'ici pour aller acheter cette marchandise, les marchandises qui sont vendues dans ce marché mondial pour venir vendre au Gabon. Le monde dit, mais ça va contribuer naturellement à la dynamisation des échanges économiques.
Le professeur Jean-Valentin Léama, qui enseigne les finances à l'université Omar Bongo.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Peace Africa, ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grodidier. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.